Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un agréable voyage. Attachez vos ceintures de sécurité.
RM Show. Et tout de suite, et tout de suite, et tout de suite sur la voie d'Amérique. RM Show. RM Show.
Salut les amis, Roger Muntu ici, la voix de l'Amérique au Studio 13, micro 5. Ici c'est Washington, la grande capitale des United States of America. Ici bien sûr, on se retrouve chaque jour, je vous rappelle, entre 20h et 20h30, temps universel. Et dans cet avion supersonique super fast, le RM Show, nous allons décoller. Nous allons quitter Washington, direction Africa Bambaataa, où beaucoup d'amis sont en train de nous suivre en ce moment. Les amis de Bamako, on vous dit un grand coucou bien sûr. Et dans cet avion, notre pilote aujourd'hui c'est Georges Léon Narsagnon, GLS, pour les intimes. Tian Wang, aujourd'hui notre copilote, elle est superbe, Tian. Elle parle très bien français. Tian, you speak French? A little bit, un peu. Mais Tian Wang est notre copilote aujourd'hui. C'est super, il fait très beau à Washington. Pourquoi pas, les amis, appelez-nous pour participer à notre émission aujourd'hui. Je vous ai très bien dit, il ne faut pas dire Roger Muntu ne nous a pas dit, parce que je vous ai très bien dit sur notre groupe Facebook, Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Notre sujet aujourd'hui, contribution de la diaspora africaine au développement de l'Afrique. Vous savez, l'implication de la diaspora africaine dans le développement du continent est devenue un enjeu capital dans le processus de globalisation de ce monde, marqué, n'est-ce pas, par une crise sans précédent et ces dernières années. Et alors aujourd'hui, la diaspora revêt une importance dans les pays du continent et beaucoup d'amis ont voulu vraiment. Et quand on parle de ce sujet-là, beaucoup de nos auditeurs qui sont en train de nous suivre en ce moment à Bangui. Un grand coucou à tous les auditeurs de Bangui. Et bien sûr, nous aurons des invités, les gens qui vont nous appeler bien sûr, à rester, attachez vos ceintures. D'abord, nous décollons avec un morceau que j'adore et nous revenons dans un instant. Jalal El Amadawi est un chanteur-compositeur originaire de la ville d'Ouja qui s'est spécialisé dans le genre de la ragada marocaine. Issu d'une famille de musiciens, Jalal El Amadawi n'est pas le premier de ses frères et sœurs à s'adonner à la musique. On écoute ce morceau et nous revenons dans un instant. We'll be right back. ce morceau, bien sûr, c'était Habibi, Habibi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Habibi. Non, je blague, je connais, parce que j'avais une copine marocaine, hein, il y a longtemps, il y a 25 ans. Habibi, Habibi, une très belle chanson, bien sûr, de l'artiste Jalal El Amadawi, Habibi, Habibi. Mais écoutez, les amis, aujourd'hui, je vous rappelle la contribution de la diaspora africaine au développement de l'Afrique. Un grand sujet, parce que beaucoup d'amis, beaucoup de frères et sœurs qui sont en Afrique attendent beaucoup de cette diaspora éparpillée partout dans le monde. Et ceux-là qui nous ont déjà écrit sur notre groupe Facebook, je dois en profiter maintenant là même pour vous dire merci infiniment d'avoir pris votre temps pour aller sur notre groupe Facebook ou même de nous écrire aussi sur notre email ici à la voix de l'Amérique, service francophone rmountu@voanews.com. Mon ami Akale Abidjan, il dit: Roger, mais toi tu parles trop vite là, il faut nous donner le numéro lentement. D'accord, je lui donne le numéro 001 202 619 31 40. Voilà, merci à Calais, je crois que j'étais trop lent pour toi-même. Mais on est ensemble, les amis. Quelques mails que les amis nous ont écrits. Voilà, je vais lire Ado Kudichini. Salut Roger Muntu, merci pour le choix de ce sujet. J'adore le constat que je fais particulièrement pour la diaspora congolaise et que notre diaspora a la bonne volonté d'aider notre pays à se développer, mais la mauvaise gouvernance, la corruption et le détournement de nos dirigeants font que notre diaspora nous oublie et puisse surtout pas nous aider. Voilà, et veuillez bien sûr nous contacter pour participer à cette émission. Merci à Do Kudichini. On va essayer bien sûr de t'avoir. Emmanuel Fresto Sakibasu. Roger, une dent ne peut jamais briser l'os, comme il dit lui-même, comme l'affirme un auteur. En effet, l'Afrique a totalement besoin du développement presque dans tous les secteurs. Ainsi donc, la diaspora et tous les Africains, comme un seul homme, doit travailler avec l'esprit du corps pour que ce beau continent retrouve sa place dans le monde. Vraiment, Roger, moi je serai vraiment à l'écoute de cette émission. Merci beaucoup Emmanuel Fretos Tibasu. On est ensemble aujourd'hui et aujourd'hui, comme je vous disais les amis, un sujet trop fort parce que vous, vous êtes en Afrique, Roger Muntu est au State, Roger Bion au State et qui encore, GLS au State. Qu'est-ce que vous faites là pour le continent GLS? GLS, Georges Léonard Sagnon, on l'aura demain, il va nous dire qu'est-ce qu'il fait pour notre continent, l'Afrique. Super cool, on est ensemble. Et notre invité aujourd'hui, c'est trop spécial. Quel grand merci d'abord à notre invitée aujourd'hui, Madame Jeannette, excusez-moi, je vais voir si je veux bien prononcer ce nom, Jeannette K. Leguil.
C'est parfait. C'est parfait.
Mais voilà, si c'est parfait, bah alors d'abord, Madame Jeannette, un grand plaisir de vous recevoir ici à La Voix de l'Amérique.
Merci de l'invitation.
Toujours un grand plaisir. Mais je vois que vous faites beaucoup, beaucoup de choses. J'aimerais vraiment que vous puissiez parler d'abord de ce que vous faites dans la vie, Madame Jeannette Kaligil.
Merci,
Roger. Roger, ouais.
Donc, je m'appelle Jeannette Kaligil. Mm-hmm. J'ai 25 ans de carrière dans une institution de développement. Mm-hmm. Et à côté de cela, j'ai fait beaucoup de volontariat. Notamment, je suis fondatrice, présidente d'une ONG, United for the Love of Children, qui en fait s'occupe des personnes handicapées de façon générale. Et aussi, je suis présidente de Model C, maison d'œuvre pour le développement économique et du leadership pour la Côte d'Ivoire, qui est aussi une ONG, disons, basée aux États-Unis. Je suis aussi présidente d'une ONG appelée Conseil général de la diaspora, qui a été mise en place en 2006. Et ça, ça concerne un peu les Ivoiriens de la diaspora de façon générale. Et en plus de cela, j'ai un ministère pour les personnes handicapées dans une église que je fréquente. Donc, pour un peu sensibiliser, permettre à ce que les personnes handicapées et leurs familles soient vraiment insérées, disons, dans notre communauté. Sans compter que je suis épouse et mère de deux enfants, dont une enfant qui a la paralysie cérébrale et qui est aujourd'hui à l'université à Londres.
Mmh. Je croyais que j'étais l'homme le plus occupé, là, le plus busy, comme on dit, du monde, ici, des États-Unis, mais je crois que Madame Jeannette, est-ce que vous avez vraiment le temps pour de faire autre chose, là, surtout la famille, hein, à la maison, avec tout ce que vous faites là, je ne sais pas, est-ce que vous avez vraiment le temps?
C'est un plaisir. En fait, je trouve plaisir à aider les autres. Donc, c'est un peu mon passe-temps. Sinon, j'ai un enfant de 18 ans, de 19 ans, et un fils, une fille de 32 ans. Et je m'occupe aussi d'eux à la maison. Je fais la cuisine. Et j'aime vraiment être un peu là où on a besoin de moi.
Exactement.
Et comme on dit, quand plus vous demandez et plus vous recevez.
Exactement.
Donc voilà, je pense qu'à force de vouloir faire, Dieu prolonge les 24 heures qu'il nous donne. Moi, je pense que par jour, j'ai plus de 24 heures.
Un exemple vraiment à suivre. Et je suis sûr que l'Afrique et les Africains, les frères et sœurs, sont fiers de vous, Madame Jeannette Kalugil. Alors, vous avez parlé de développement. Et évidemment, je sais qu'il y a un forum sur le thème de la diaspora africaine et développement, n'est-ce pas ? J'aime bien la question, quel partenariat ? Alors, quel partenariat entre la diaspora africaine et le développement ?
D'abord, vous voyez dans ce thème qui est diaspora africaine et développement, quel partenariat ? Vous avez deux grands groupes, hein, vous avez déjà le développement. Donc, il faut bien qu'on se situe. Quand on parle de développement, de quoi il s'agit ? Quand on parle de développement, déjà, on parle de la qualité de vie. Donc, la qualité de vie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons accès à l'éducation, nous avons accès aux soins de santé, nous avons, disons, la liberté d'expression, nous avons, l'opportunité d'avoir une activité, disons, rémunératrice, disons, tout ce qui permet à l'être humain de vraiment s'épanouir. Vous voyez ? Et maintenant, compte tenu de cela, pour pouvoir réussir ce développement, pour que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation, à la santé, à l'information surtout, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a une collaboration qui doit vraiment s'établir. Il y a un partenariat qui doit déjà s'établir. Et c'est ce que nous croyons. Et aujourd'hui, on ramène la question au niveau de la diaspora. En tant que diaspora, vous qui avez ce privilège-là de quitter, de voyager, de voir les autres cultures, de fréquenter d'autres lieux, comment vous pensez que vous pouvez collaborer, comme on dit en anglais, to give back à votre communauté d'origine et puis aussi à la communauté qui vous accueille. Donc, quel partenariat ?
Évidemment, vous êtes en train d'éduquer cette diaspora ici, aux États-Unis, par exemple. Mais qu'est-ce que vous avez déjà réalisé dans votre pays d'origine, par exemple ?
D'abord, quand j'ai commencé, c'est depuis, concrètement, depuis 1999 que j'ai commencé vraiment à poser des actes de façon, structurée. Je vais dire créer une organisation, s'identifier, avoir un numéro d'identification. Et donc, j'ai commencé par les personnes handicapées. Donc, c'était à partir d'un constat où j'ai voulu vraiment être utile, disons, à mon pays d'origine. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'au niveau des personnes handicapées, il y avait un besoin. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Au début, quand j'ai commencé, je suis d'abord allée en Côte d'Ivoire et j'ai cherché à rencontrer les personnes handicapées. On a commencé par me dire qu'il n'y en avait pas. Je dis, ce n'est pas possible. Donc, c'était presque à la fin de mon séjour que finalement, j'ai vu un article dans un journal où on parlait des personnes handicapées. Donc, à partir du journaliste, j'ai pu rentrer en contact avec les associations, les organisations pour les personnes handicapées. Donc, après cela, j'ai commencé à faire des dons et j'ai réalisé que non, le problème n'est pas à ce niveau. C'est plus profond que ça. Donc, depuis, j'ai commencé à établir des partenariats avec les structures américaines. J'ai commencé à vraiment moi-même comprendre, disons, le concept, le problème, qu'est-ce que c'est. Donc, depuis, évidemment, je fais souvent des dons, mais je participe à des réflexions pour pouvoir, en fait, à mettre en place une sorte de politique pour que les personnes handicapées soient réellement prises en compte. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai participé, par exemple, en 2006, on a fait un atelier de 3 jours sur la surdité, disons, les déficients auditifs, pour qu'on puisse vraiment réaliser, le problème qu'ils avaient. Et on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Et récemment, l'une de nos campagnes a permis à ce que le gouvernement, en tout cas, nous avons contribué à cela, à ce que le gouvernement ratifie la convention, relative pour les personnes handicapées au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais je ne fais pas ça uniquement pour la Côte d'Ivoire. Mmh. Je le fais aussi au niveau des personnes.
Mais il faut commencer quelque part.
Je le fais aussi aux États-Unis. Et encore, c'est le partenariat. Parce qu'à partir de mon église, nous appuyons, nous collectons et donc nous apportons de l'assistance. Mmh. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine campagne aussi pour que les États-Unis puissent ratifier la convention relative aux personnes handicapées qui ne les concerne pas. Mais nous pensons qu'une fois que les États-Unis auraient ratifié cette convention, ça pourra ouvrir une opportunité vraiment d'affaires pour les personnes handicapées américaines. Mmh. Et cela peut apporter une certaine assistance technique,
aussi dans d'autres,
technique surtout dans nos pays.
En
donc
Afrique.
Voilà un peu, j'ai eu à faire beaucoup vraiment, j'ai participé aussi à la rédaction des projets de loi, par exemple dans mon pays. Mmh. Donc je me porte vraiment disponible lorsque je visite.
Et
il y a deux points aussi que j'aimerais signaler au niveau des personnes handicapées, surtout à travers ULOC. Nous avons pu sauver la vie à deux, disons, immigrés en Suisse qu'on a voulu rapatrier. Mmh. Et ULOC a intervenu en parlant des personnes handicapées, la situation en Côte d'Ivoire. Donc ça a permis à ce que la Suisse leur donne un statut vraiment de réfugié privilégié.
Pays assis ici, c'est vraiment bien de savoir tout ça.
Non, ça c'est un exemple que peut faire la diaspora.
Exactement, palpable, voilà. Et nous avons quelques amis qui nous appellent déjà. Je crois que nous avons Balthazar Chimanga qui nous a écrit sur notre groupe Facebook. Allô Balthazar.
Allô, cher Roger. Bonjour, chez vous et bonsoir, c'est moi, mon frère.
Comment ça va, monsieur Balthazar Chimanga? Ça fait longtemps, là.
En tout cas, je me porte à merveille, monsieur Roger. Ça fait un bon bail, mon frère.
Ça fait vraiment un bail. Alors, Balthazar, notre sujet d'aujourd'hui, j'ai vu que vous avez répondu sur notre groupe Facebook. On parle, bien sûr, de cette diaspora. Qu'est-ce que vous attendez de la diaspora africaine qui est éparpillée aujourd'hui partout dans le monde? Qu'est-ce que Balthazar attend de cette diaspora?
Bon, en tout cas, la diaspora africaine a un rôle vraiment primordial à jouer pour l'épanouissement de notre cher continent, pour l'épanouissement de l'Afrique. Et surtout, la diaspora intellectuelle africaine est une mine d'or grise inépuisable pour l'Afrique, monsieur Roger.
Non, très bien suivi, très bien suivi.
C'est une mondiale stratégique et renouvelable, loin vraiment de toutes les richesses qui reposent quand même au sous-sol. C'est pourquoi nous attendons de pied ferme sur quel jour l'Afrique vivra ses heures de gloire, ses heures d'honneur et ses heures vraiment, je dirais, d'épanouissement complet avec ses fils, ses filles éparpillées dans tous les quatre coins vraiment qui pleurent. C'est en ce sens-là que j'ai voulu quand même intervenir aujourd'hui pour pouvoir quand même, je dirais, chauffer ensemble avec vous concernant les sujets du jour sur la contribution de la diaspora pour l'avenir quand même de notre chère Afrique.
Merci beaucoup. Balthazar, reste là, nous avons aussi Eglo Makassi qui est là. Allô Eglo Makassi, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter là-dessus, Eglo Makassi? Qu'est-ce que tu attends, Eglo, de cette diaspora africaine?
Alors, Roger, ça va?
Ça va trop bien, Eglo Makassi.
Donc, moi, de ma part, j'attends vraiment la reconnaissance de la diaspora africaine. Parce que, vous savez, il y a beaucoup d'Africains qui travaillent dans des pays étrangers et font des merveilles. Donc, moi, je suis vraiment contre la fuite des cerveaux. Donc, vous savez, l'Afrique, c'est un continent en friche, sous-développé, qui a besoin de grands penseurs qui viendront développer l'Afrique. Mais quand il y a fuite de cerveau, c'est pas mal bien. Vraiment, on a besoin de ces gens-là qui peuvent revenir dans le continent et qu'ensemble, nous puissions vraiment développer l'Afrique. L'Afrique, en bref. Mmh. Vraiment.
Alors, Madame Jeannette, vous avez bien suivi ce que les deux nous ont dit. Hein, ils parlent, les deux parlent, Balthazar et Eglo Makassi parlent de cette matière grise, hein, de ces intellectuels africains que vous êtes, hein, par exemple. Alors, vous, effectivement, vous êtes en train de fonctionner, de travailler ici aux États-Unis, mais ils parlent de gens comme vous, hein, des intellectuels qui sont partis, mais ils réclament à ce que ces intellectuels-là reviennent pour travailler chez nous. Qu'est-ce que vous allez répondre à ces frères et sœurs africains qui posent cette question, par exemple?
Je crois qu'il faut voir la question à deux niveaux. Mm. Lorsqu'on parle de diaspora et de fuite, surtout dans le contexte actuel, on ne peut plus parler de fuite de cerveau parce qu'on peut faire beaucoup de choses de façon virtuelle. Je vous explique tout à l'heure, moi, ce que je fais, ce que je suis capable de faire. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais je peux vous dire vraiment ce que je fais à partir des États-Unis. Et je n'ai pas besoin d'être physiquement en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, la notion de fuite de cerveau, c'est déjà quelque chose, je pense, qu'il faudrait qu'on revoie. Maintenant, vous avez une diaspora. Certaines diasporas sont nouvelles, sont jeunes. D'autres sont vraiment anciennes avec une bonne expérience. Mm-hmm. Pour que la diaspora, retourne chez elle, il faudrait qu'il y ait vraiment un environnement qui le permette. Vous avez par exemple les diasporas telles que la diaspora indienne, la diaspora chinoise. Il y a des facilités qui sont offertes par les gouvernements pour que ces personnes-là puissent avoir le désir de retourner et puis de s'impliquer. Cela veut dire quoi? Encore, nous revenons sur la notion de partenariat, de collaboration, de communication. Donc, ça veut dire que l'État fait déjà l'inventaire de ses besoins et invite sa diaspora.
Alors là, vous voulez dire, par exemple, l'État, les États ou le gouvernement africain ne font pas assez pour que cette diaspora-là revienne travailler dans des conditions...
Disons que pour certains pays, les gouvernants ne mettent pas vraiment en place une politique visant la diaspora. Pour que la diaspora puisse s'impliquer et puisse, disons... Parce que ce que nous faisons beaucoup, vous voyez que la politique des partis politiques vient créer plus de conflits, ce qui fait que vous avez certaines personnes qui s'éloignent. Donc, est-ce que la question qu'on pourrait se poser, n'est-ce pas ce que la diaspora africaine fuit? Donc, elle préfère rester à l'écart où elle vit une vie paisible que d'être confrontée à des conflits souvent sans solution parce que ce sont des conflits vraiment à caractère politique. Donc, déjà, il faudrait qu'il y ait un environnement pour que... Moi, plusieurs fois, je suis partie en Côte d'Ivoire, je donne l'exemple, pendant les crises, et des gens me disaient, mais est-ce que tu es folle? Effectivement, c'était des risques que je prenais, mais ils sont combien à prendre ce genre de risque?
C'est ça la question.
Voilà. Et en plus de ça, non seulement la diaspora, pour que la diaspora aussi puisse contribuer, il ne faut pas aussi compter seulement sur le gouvernement, il y a aussi la population. Qu'est-ce que la population aussi entend? Quel genre de collaboration elle aimerait avoir? Lorsque, la diaspora arrive, est-ce que cette population est prête aussi à collaborer? Donc, c'est vraiment, encore, nous revenons sur la notion, de partenariat, qu'il faudrait qu'ensemble, on se mette en cause. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment, cette Afrique-là puisse
Et alors là, vous dites que si ces conditions-là ne sont pas améliorées dans les pays africains, aussi longtemps que ces conditions-là ne sont pas améliorées, je dois dire, les gens voudront toujours quitter le pays, aller à l'Eldorado, par exemple, et ne pas revenir.
Et ne pas revenir. Et puis, n'oubliez pas que quand vous parlez de diaspora, il y a des générations. La première génération, elle aura tendance à regarder derrière pour dire, bon, je viens d'un pays, j'ai laissé une population, des parents qui ont besoin de moi. Mais nos enfants, le plus souvent, sont coupés. Donc, il y a un travail de fond aussi à faire pour que l'enfant puisse comprendre que d'où vient, enfin, son origine, disons, a besoin aussi de son expérience, de son éducation. Et ce travail-là, c'est un travail vraiment, dans un premier temps, étatique, et ensuite, un travail que peut faire la population civile, la société civile. Mais le plus souvent, l'information ne passe pas. La formation ne passe pas, la communication ne passe pas.
C'est vraiment
un souci qui fait qu'aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple des Indiens, je vous ai donné aussi l'exemple de certains pays qui sont déjà avancés, y compris même l'Europe. Quand vous voyez un peu les gouvernants européens, le comportement, les relations que ces gouvernants européens ont avec leur diaspora, c'est complètement différent de ce que nous avons avec nos dirigeants africains. C'est-à-dire qu'ils comptent entièrement sur leur diaspora, alors qu'en Afrique, souvent, on voit même la diaspora comme, un compétiteur. Donc, du coup, le travail, même les bonnes volontés de la diaspora sont un peu réduites, sinon sont complètement noyées.
Merci beaucoup, Madame Jeannette Kalugil. Très bien dit. Mais nous allons écouter un morceau et nous revenons dans un instant avant de prendre quelques amis qui sont en ligne, en direct. Là, ils veulent bien participer à cette émission. Merci de nous appeler toujours au 001-202-619-3140. Merci.
sure she keep you the really sure. I see how you're moving now. Olé. You better just stay in line. All I wanna do is just make you mine. You make my heart beat like playing grime. Now you won't leave and say goodbye. African lady, you know say you drive me crazy. I can't let you do me shady. The things that you do don't fit me. London baby, you know say you drive me crazy. I can't let you do me shady. The things that you do don't fit me. She don't do me right, yo. But she just fuck my money, yo.
Azoto, bien sûr, un morceau trop cool de Wyclef et ODG, Nadja Music, ici la voix de l'Amérique, service francophone. Un grand merci à tous les amis qui nous ont écrit sur notre groupe Facebook. Je parle déjà de Martins Bukassa, Frédéric Chilanda, mon ami, et bien sûr Bakari Keita de Bamako, Ibrahim Wiseman, merci beaucoup pour ton mail. Kaoura Ibrahim Wiseman, il est trop trop cool. Et bien sûr, on pense à Salomon Sidibé, Alphonse Mboaki, Serge Mibenge, Berton Dieudonné Ndimou, Corneille Mwamba, Moussa Koulibaly, Wilson Miguel Aishaku et bien sûr Lamine Sangaré.
If Gregory Isaac was here, he'd say night nurse. Caught up in the middle of the night time. Even though it's wrong, but it feels like the right time. 360 degrees, she got me caught up in the African wine. Caught up in the middle of the night time. Even though it's wrong, but it feels like the right time. 360 degrees, she got me caught up in the African wine.
Nadja Music Antenna, ici la voix de l'Amérique, service francophone, 001-202-619-3140. Est-ce que Ado est encore là? Allô Ado? Je crois qu'il est déjà parti, voilà, parce que je sens comme si il est déjà parti. Mais si Ado est parti, Georges, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Allô Ado? On n'a pas Ado, hein. Si on peut trouver quelqu'un d'autre, qui encore en a? Allô? Nous avons Francis. Allô Francis? Allô Francis? Mais nous n'avons pas Francis non plus, je crois qu'il dort déjà. Mais c'est sûr, il fait tard, je sais pas où ils appellent de quel pays là, genre, ils appellent de Luanda Norte. Exactement, bien sûr. Mais les amis, nous sommes encore en train de décoller, bientôt nous allons réatterrir ici en Afrique. Nous avons en direct Madame Jeannette Caligil, ici aujourd'hui, la voix de l'Amérique, service francophone. Elle est, comme elle a dit elle-même, présidente de beaucoup, beaucoup d'ONG et elle fait beaucoup, vraiment l'Afrique doit être trop fière d'une dame comme Madame Jeannette Caligil. Et on a beaucoup, beaucoup à parler avec les amis de Bamako, les amis de N'Djamena. Ne quittez pas parce que dans un instant, nous allons juste changer d'appareil pour planer Bamako. Ce sujet, les amis, nous allons continuer avec ce sujet jusqu'à la fin de la semaine. Donc, il ne faut pas pleurer, vous n'avez rien encore raté parce que demain, on continue. Please don't go, I gotta go. L'avion réatterrit et je ne peux que vous dire peace, Africa.
Please don't go.